Rachid qui vient de Saillant, qui fait partie, enfin, qui a participé à l'élaboration des mairies citoyennes. Et donc, pour vous rappeler un peu le contexte dans lequel on a habité, on est un petit groupe de personnes, tous les habitants de Valcourt et de Saint-Étienne maintenant sont invités à s'y rejoindre, à s'y retrouver, puisqu'on essaye de créer une liste de gens pour faire une démocratie participative, une gouvernance partagée. Donc on a déjà fait plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. Donc la première était sur le PLU, parce que c'est important dans une commune. La deuxième sur la démocratie participative locale. La troisième, c'était sur la transition écologique, ce qui est fait à l'agriculture et à l'élevage qui est très présent dans le coin. La quatrième, c'était créer du lien social. Et la dernière en date, c'était à l'ASP Roux, à propos de la montagne. Donc c'est la sixième rencontre de ce collectif et on espère que ça va vous plaire. J'aurais voulu savoir si, parce qu'on a un collègue qui veut enregistrer la séance par rapport à Tristan, s'il y en a qui ne sont pas d'accord pour être enregistrés, surtout par rapport au débat à la fin. Donc vous pouvez me le dire, on n'enregistrera pas. Demain et après-demain, Tristan sera encore là pour faire un atelier formation. Donc il y a encore des places pour ceux qui veulent venir. Il y a une petite participation financière quand même. Et donc ça sera une formation pour faire de la démocratie locale, pour faire de la gouvernance partagée, pour apprendre à prendre des décisions, mais à plusieurs, contrairement au système actuel. Que ce soit plus au niveau d'État ou au niveau local, où ça ne se passe pas forcément comme ça, même dans les entreprises. Si vous voulez vous y inscrire, vous venez me voir à la fin et je vous inscrirai. Donc ça sera demain à partir de 9h30 jusqu'à 17h et dimanche pareil. Si vous voulez venir qu'une journée aussi, c'est possible. Voilà, donc vous pouvez laisser votre mail à la sortie là-bas. Si vous voulez avoir les suites de ce qui va se passer. Et puis, il y a une petite boîte aussi pour le défraiement du déplacement de Tristan. Ça serait bien si vous pouviez participer et quelques euros, on vous en serait reconnaissant. Et puis, je vais laisser la parole à Tristan. Je vais quand même vous sortir cette petite histoire que je sors en général par rapport au monde économique et de la finance. Où c'est deux poissons qui se rencontrent, il y en a un, il dit « Salut, ça va ?»« Ouais. Et comment va l'eau aujourd'hui ?»« L'eau ? Et c'est quoi l'eau ?» Et nous, on baigne pareil dans cette démocratie, et on ne la connaît pas vraiment. Le monde de la finance, la démocratie telle qu'elle est actuellement, on baigne dedans, ça nous concerne tous les jours. Il y a des lois qui sont faites, qui nous concernent tous les jours, mais pourtant... On ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et c'est ça, il faudrait peut-être un peu plus connaître cette eau et aller de l'avant et participer à l'élaboration de ce qui nous entoure. Voilà, je vous remercie. Tristan ?
Je suis entouré de plein de gens. Très angoissé quand il y a des noms que j'arrive pas à voir. C'est un trauma d'enfance, je sais pas bien du tout, mais du coup je vérifie, je vois tout le monde. Le dernier arrivé là. Parce que du coup, juste en face de moi, il y a pas le grand monde. Mais on ne fait pas devant la porte en disant tiens. Non, il y a des traditions, des fois.
En plein les cours annuels.
Ah, c'est le cours annuel, ok. Alors, on va commencer comme ça, peut-être. C'est bizarre d'avoir la plupart des gens ici, sur ma gauche.
C'est la seule. Bonjour.
On a jusqu'à
spécial.
Il est 9h moins 15. 9h moins 15, normalement, je vous raconte un truc qui dure à peu près 3 quarts d'heure. Donc pendant 3 quarts d'heure, c'est moi qui pars à pied. Et à la fin des 3 quarts d'heure, on échange. Ça va ? C'est juste le temps de vous raconter la petite histoire que j'ai à vous raconter, qui a pris le temps. Ce qui veut dire 9h moins 15, c'est 9h30, 9h35, 9h35, 10h36. Je vous dis qu'on finit à 11h. Ça va à peu près ? Ouais. Pour ceux pour qui ça fait un peu tard, vous y allez. Hein. Mais c'est juste pour vous donner un petit avantage. 11h, et puis après. Moi, je suis là jusqu'à dimanche. Hein, donc, Et ceux qui décident de partir avant, vous pouvez prendre un petit verre pour la route. Ouais, à la fin des 3 quarts d'heure, on va se servir des verres et tout, hein, avant de discuter. Moi, j'ai déjà commencé. Vous m'entendez ou pas ?
Oui.
C'est bien pour tout le monde ?
Ouais.
Je monte, c'est vrai ?
Un peu le son.
Okay. Parce que je suis pas loin du max, là, du coup. Je suis en remuée et... C'est vrai, toi, tu m'entends pas ? Non, c'est juste pour toi.
C'est peut-être qu'il y en a qui faut qu'ils se rapprochent. Ils entendent
voilà. Là, on est bien. Voyez-vous ça se trouve, c'est bien.
Non.
C'est aussi un territoire de Clairette. Vous devez connaître la Clairette, j'imagine. Les gens s'en vont à cacher. Il y a un truc qui va pas dans son droit de donner la porte pour entrer. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais il doit y avoir un truc dans les Cévennes avec la porte pour entrer. Dans l'histoire de. Ah, c'est peut-être ça. Donc, la Drôme, Saillant, c'est à, je sais pas, c'est bien de Lille, en fait. J'étais à Lille ce matin, donc j'étais passé là. On doit être à 2h30, je pense, à peu près.
3h.
Vous connaissez, enfin, des gens sont déjà venus, là. Vous connaissez,
ouais. Moi, je connais bien, ouais.
Ouais. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'on voit le pourcentage de gens qui ont déjà passé dans ce village, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est pas... Mais... On va pas se laisser avec votre village du coup. D'ailleurs, il faut voir combien de gens sont passés. On va raconter ça aussi parce que j'ai l'impression que c'est. C'est quoi, c'est une nouvelle, c'est ça ?
Oui.
Bon, on en parlera après. Donc, ça y est, petit village de 1200 habitants. Dans la Drôme, et c'est situé entre Die et Cray. Cray et Die, ça dépend si vous êtes par le nom ou pas. Vous voyez du coup cette vallée qui est traversée par la Drôme, du coup. La Drôme, c'est aussi une rivière. Il n'y a plus d'eau, mais on a encore les cailloux, en fait, il y a encore les traces. Et la Drôme, c'est que j'ai plus dans le Drôme en fin d'été chez les femmes. On vit une époque absolument formidable, c'est-à-dire que la Drôme ne se jette plus. Ça dure quelques jours. Ça fait 2 années de suite. Voilà. Ça va vous pour la flotte, du coup, nous, c'est chaud pour le kayak, quand tu veux aller dans le Drôme, du coup, 2 kilomètres à faire à pied, c'est un peu chiant. Voilà. On s'adapte, hein. Donc c'est entre Die et Cray. Et ce petit village était administré en 2008, à partir de 2008, entre 2008 et 2014, par un maire qu'on va appeler François. C'est son vrai prénom. On enregistrait là, du coup je fais gaffe, du coup, de ne pas citer les gens. François. François s'est fait élire en 2008 à Saillant. Donc ce n'est pas les dernières élections, c'est celle d'avant. François s'est fait élire à Saillant en 2008. Il appartenait à un parti politique qui s'appelle, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, le MoDem. Avec une couleur orange. Et c'est le centre. Mais ce n'est pas pareil que le parti du centre. Mais c'est un autre centre. Vous voyez, ouais. C'est intéressant du coup de être fin, du coup. C'est du centre. Alors en marche, c'est aussi du centre. C'est pas non plus le même centre, exactement. C'est un autre, pareil. On a beaucoup de parties du centre en France. C'est vrai que c'est intéressant de bien savoir où on est, parce que du coup, ça, c'est important, ça donne des repères. Donc du coup, François se fait élire en 2008 à Saillant. Et François, ce qui était à la mode à l'époque au MoDem, c'était la démocratie participative. Déjà, en 2008. Je ne sais pas si ça vous rappelle des trucs, mais voilà, il y avait des slogans de campagne comme ça, et le MoDem avait mis la main un peu sur la question de la démocratie. Donc François se fait élire sur le concept de la démocratie participative en 2008. Donc il se fait botter les fesses pour la mise participative 6 ans plus tard. Hein. Vous voyez, c'est que ça n'a pas dû se passer exactement comme il l'avait annoncé. Donc son pilier de campagne est la démocratie participative, et en fait, pendant les 3 premières années de sa mandature, on ne voit rien passer en termes de participation. Pas de commission ouverte, pas de réunion publique, rien ne se passe pendant 3 ans sur la question de la participation de la démocratie. Et à un moment donné, ce monsieur, qui mène une politique qui est la sienne, une politique locale qui est la sienne, mais à un moment donné, ce monsieur a une idée absolument fantastique. Il décide d'implanter un supermarché à 1 km du centre du village. Ah, super. C'est une bonne idée, ça. Hein. Alors nous, on se dit à peu près ça dans le même ton. On dit « Ah, super, là, bravo. » Et en fait, pour ceux qui sont déjà passés à Saillant, vous avez peut-être pu remarquer qu'à Saillant, en fait, c'est tout sauf un village dortoir. En fait, c'est un village où il y a plein de commerces. On a plein de petits commerces de proximité. On a un coiffeur, on a acheté une machine à laver, une salle de bain. C'est une salle de bain, ça y est. Il y a un boulanger, il y a un boucher, une épicerie bio, il y a une épicerie pas bio, il y a une épicerie pas bio du tout. Il y a vraiment tout. On a toute la gamme vraiment très ouverte. Et d'annoncer l'ouverture d'un supermarché à 1 km du centre-ville de Saillant, on a déjà vu cette histoire ailleurs, quoi. Parce que ça crée du coup ça crée une fermeture des commerces de proximité, finalement des villages qui deviennent des villages dortoirs. Ça fait la même chose dans les centres-villes aussi, hein, les milieux urbains aussi, hein, ça provoque à peu près les mêmes dégâts aussi. Donc un collectif se met en route, hein, plutôt que on ne peut plus dire en marche, sinon après je vais dire que. On en discutera à la fin de ça aussi. Hein. Donc la collectif se met en route contre cette idée qui nous semble pas terrible quand même d'implanter un supermarché à 1 km du centre du village. Et on fait un premier truc assez classique, c'est-à-dire qu'on fait circuler une pétition pour voir si on n'est que 10-15 pimpins à vouloir le truc. Quoi, ouais. Donc on va discuter avec les gens sur les places du marché, etc. Et en fait, cette pétition va récolter 800 signatures. Donc on est 1200 habitants et on va dire en gros que le petit territoire autour de Saillant, où il y a Crène d'un côté et il y a Tite de l'autre, on va dire qu'on est avec les petites communes, on a des petites communes entre 50 et 150 habitants autour de Saillant, on va dire qu'allez, on est sur un territoire de 1800 habitants, je dirais, donc entre 1800 et 1800. Donc on a quand même sur 1800 habitants, alors vous enlevez tous les enfants, vous enlevez ceux qui sont vraiment plus en mesure de signer une pétition, ça commence à représenter beaucoup. Donc vous avez quand même 800 personnes sur ces 1800 habitants qui déclarent ne pas vouloir l'installation d'un supermarché. Donc tout quand on compte les signatures, on se regarde et on se dit « c'est génial, on a une bonne nouvelle à annoncer à François ». Lui, pendant 3 ans, il n'a pas réussi à trouver un sujet pour faire participer ses habitants, malgré tous ses efforts. Et bien là, tu l'as ton sujet, mon garçon, quoi. Là, tu as 800 personnes qui ont envie de discuter avec toi. Eh bien, il n'a pas du tout pris comme ça. Et vraiment, alors moi je n'étais pas présent ce jour-là dans son bureau, mais on l'a rapporté. Donc vraiment, son discours, c'était de dire je suis le maire, je décide, et vous prendrez vos responsabilités dans 2 ans et demi, lors des prochaines élections. Et voilà, on a pris nos responsabilités, et c'est grâce à François que je suis devant vous. Donc j'en profite en général pour remercier François. Si François ne s'était pas entêté dans son projet des villes, je pense que l'histoire de Saillant n'aurait pas. N'aurait pas existé, puis je serais pas là devant vous ce soir. Voilà. Je trouve que vous, ça vous fait rien, mais moi, ça Donc, fin de non-recevoir de la part du politique. Hein. Plusieurs tentatives pour aller voir, pour essayer de discuter avec le maire, avec le petit bout d'interco. On était dans une petite interco à l'époque. Maintenant, on est dans une grosse interco. J'ai remarqué aussi qu'on tendance à grossir un peu ces machins-là. Vous savez qui est le maire de. Parce que du coup, vous avez donc la Clairette, c'est connu pour. Guy, c'est connu pour la Clairette. D'autre côté, on a Crêpes. Vous savez qui c'est le maire de Crêpes?
Ouais, Marie-Claude.
Ouais, c'est ça. Hervé Marie-Claude. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Hervé Marie-Claude. Député maire depuis 25 ans, porte-étendard contre le mariage pour tous, ça c'est Madame Taubira à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez pas de ce monsieur-là, qui prend les têtes à Madame Taubira à l'Assemblée nationale? C'est pas le Guy Luron de base, hein, Hervé Mariton, et c'est pas non plus un vrai bonhomme politique, quoi. C'est le mec qui voulait se présenter au présidentiel, quand même. Hein.
Ah ouais.
Alors il s'est planté normalement avec ses 500 parrainages, sauf qu'il avait mal compté, il n'y en avait pas 500. mais ça a failli, hein, ça a failli notre président de la République, Hervé Mariton. C'est un personnage politique assez majeur, quand même. Quoi. Et nous, on est dans sa communauté de communes aujourd'hui. Et notre président de communauté commune, c'est Hervé Mariton. Non, c'est même pas notre président, en fait. Il a autre chose à foutre. Mais l'empreinte d'Hervé Mariton est quand même très présente sur le territoire. Et donc, nous, on est dans le territoire d'Hervé Mariton. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans le pays de Bouy, hein, du coup. Hein, c'est Hervé Mariton, quand même, notre tête de gondole. Donc, voilà. Donc, on est dans cet environnement politique-là. Et donc, puissante signature, fin de non-recevoir du politique. On ne veut pas nous entendre parler de cette histoire. Et donc on fait d'autres trucs un peu plus rigolos, comme par exemple aller du centre du village jusqu'à l'emplacement du futur Intermarché, enfin futur supermarché. Et on y va avec des déambulateurs, des caddies, des poussettes. Et bah oui, il faut bien aller faire les courses. On a des anciens chez nous hein, qui marchent avec des déambulateurs, donc il faut bien faire le petit kilomètre faire des courses. Et en plus, projet encore tellement débile, l'endroit n'est même pas du bon côté de la départementale. Et en plus, il faut traverser la départementale pour aller au supermarché. Donc, traverser la départementale, il faut arrêter les voitures. Donc vous imaginez 250 pimpins avec une batucada, la presse locale du coup qui essaye d'aller faire les courses du coup de l'autre côté de la départementale. Voilà. Donc on fait des trucs un peu rigolos comme ça. Et à un moment donné, enfin un an et demi, 2 ans de combat, et l'idée à un moment donné dans le collectif d'aller voir les 3 enseignes, puisque le politique ne voulait pas répondre, donc l'idée d'aller voir les 3 enseignes qui s'étaient positionnées sur le marché. Donc nous on a la chance d'avoir du Casino, de l'Intermarché et du Super U. Vous avez les mêmes, on n'a pas la chance d'avoir du Leclerc ni Auchan. Vous avez du Lidl? Oui, mais ça c'est pour les pauvres. Vous avez du Leclerc? Vous n'avez pas de Leclerc?
Super U.
C'est vrai. Leclerc, c'est une chute quand même. Ils font des sachets biodégradables au plus longtemps. Leclerc, c'est des écologies totales. Voilà. Nous, on n'a pas Leclerc, on a des trucs un peu pourris. Voilà, donc les 3 enseignes en fait se retirent du marché lorsqu'on vient évoquer avec eux le fait que 800 personnes potentiellement n'iraient pas consommer chez eux. Et on apprend par la suite, parce que ça a été assez rapide en fait, la gagne économique, enfin le fait que les enseignes se retirent, ça a été assez rapide. Et en fait, on a appris par la suite que c'était une hérésie de toute façon économique de s'installer à cet endroit. Comment dire, il y a Saillant, il y a Cray, il y a Di, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a du Lidl, on a de l'Intermarché, on a du Super U, à Di et à Cray. Il n'y a aucune raison d'aller implanter encore une grande surface entre les deux. Et on est à 20 km de Di et à 15 km de Cray. Sur notre territoire, il y a plus de chèvres que d'habitants, vous voyez ce que je veux dire? C'est bible d'installer une grande surface à cet endroit-là, je veux dire. À
un moment où des chèvres aillent faire leur marché seules, c'est rare de voir des chèvres pousser leur tabis, même bien dressé, enfin, je veux dire, il y avait quelque chose de l'ordre de l'hérésie économique à Saint-Célestin. De toute façon, les enseignes perdaient de l'argent à s'installer à cet endroit-là. Mais elles perdaient encore plus d'argent si une autre enseigne s'installait à cette place-là. C'est-à-dire que potentiellement, elle piquait la clientèle de Saillant aux autres enseignes. Donc vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Donc j'imagine que les trois enseignes sont passées un coup de bigot, un coup de téléphone, et ils se sont dit, bon, tout le monde se retire, on arrête avec cette histoire. De toute façon, personne n'a envie de s'installer là-bas. Et voilà, donc ça a été réglé. Donc victoire du collectif face à la grande distribution et à l'autocratie locale. Donc je ne sais pas ce que vous faites, vous, quand vous gagnez un truc comme ça, nous on picole. Nous on se croit et on picole. J'ai besoin un peu de multivers devant. Est-ce qu'on a eu une victoire, nous ? Voilà. Donc voilà, donc on célèbre ça une première fois et on célèbre ça une deuxième fois. On a bien célébré ça. Puis on célèbre ça une troisième fois. Et en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça des fois dans votre vie, mais après une grande victoire, on vit une période de dépression. Individuellement ou collectivement. Vous avez déjà fait ça. Vous gagnez un truc en gros. Et puis à chaque fois que vous renvoyez, ouais, on voit un coup, on se rappelle ce qu'on avait fait, on se rappelle quand Michel a traversé de la département. On se raconte les histoires. Mais quelque part, il y a un truc de l'ordre de la nostalgie. Ouais, on vient de gagner un truc ensemble, mais est-ce qu'on a encore quelque chose à faire ensemble ? Ce groupe-là, il est encore vivant. Et donc voilà, donc on se dit ça de soirée en soirée, et à la troisième soirée, on est vachement moins nombreux, on n'est plus qu'une vingtaine à célébrer ça. Et on a Fernand qui rentre dans la salle à ce moment-là. Et Fernand nous dit, on est à 6 mois des élections, on est à 6 mois du premier tour des élections municipales. Fernand nous dit, François va se représenter, donc le maire sortant va se représenter, ça c'est sûr, et a priori, il n'y aura pas de liste en face. Comment vous dire ? Après 2 ans et demi de combat, face à un pimpin qui nous annonce qu'il va faire la démocratie participative et qui n'est pas capable d'écouter sa population, parce que sa population massivement lui dit que son projet est une hérésie pour le village, comment accepter le fait que ce monsieur, quoi qu'il advienne, s'il n'y a pas de 10 en face, ce monsieur va redevenir maire du village pendant 6 ans. Là, je suis en train de vous parler de notre système démocratique. Donc, vous allez voir dans mon propos, à un moment donné, je vais un petit peu vous raconter qu'on n'est pas vraiment en démocratie en France. On pourra en discuter, de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais pour moi, le niveau zéro de la démocratie, ça serait une société dans laquelle, vous voyez, dans une élection, on aurait un pimpin qui se présenterait avec un programme face à un autre pimpin, et puis les deux argumenteraient qu'il faudrait voter pour un des deux. Vous voyez. Pour moi, c'est le niveau zéro de la démocratie, ça. La démocratie, vous voyez, j'ai beaucoup plus de valeur que ça. Mais là, même le niveau zéro de la démocratie, on nous le retirait. C'est-à-dire qu'il y avait pimpin, mais il n'y avait pas un deuxième pimpin. Le petit pimpin en question, putain. Après ce qu'il venait de faire, ce qu'il nous avait fait, après le combat qu'on a mené contre lui, voilà, c'était juste insupportable en France. Donc on attaque vite le deuxième verre de Derek. Hein. Du coup, quand on est content, on boit la clarette, et quand on n'est pas content, on boit aussi la clarette. Et au deuxième verre de clarette, on se dit tout ça, la démocratie, il y en a marre, machin, il faudrait vraiment faire la démocratie assaillante. Et puis, il y a une idée qui sort à ce moment-là, et l'idée qui sort est... On n'a qu'à faire courir le bruit qu'il y a une liste qui va se monter face à François. On va faire courir l'idée dans ce bruit dans le village. Et on va organiser une réunion publique, donc en disant aux gens, venez rencontrer la nouvelle liste qui va se présenter face à François. Sauf que quand les gens vont arriver, on va leur dire qu'on n'a pas de programme et qu'on n'a pas de candidat. La soirée peut s'arrêter là. En général, vous voyez. Alors, ce qui s'est passé, la moitié est partie en disant bon, on a trop picolé, on est en train de dire des conneries. À demain. Et bien, en fait, il y a un groupe qui est resté autour de cette idée, qui a décidé de mettre en place ce truc, de faire courir le bruit dans le village qui nous allait se monter, et de les accueillir de cette manière-là. Donc, 3 semaines plus tard, à peu près 2-3 semaines plus tard, la réunion a lieu, et on a 120 personnes qui viennent. Alors, 120 personnes, c'est pas parce qu'on est très fort en communication, c'est parce qu'on est dans un petit village. Et dans un petit village, on va y avoir la trombine des gens qui se présentent aux élections. Vous mettez un coup de clairette et 2-3 petites tartines, et là, vous avez 120 personnes sans aucune difficulté. Ça marche comme ça chez vous aussi ou pas ?
Oui, oui.
Pas.
Voilà, un peu de surprise, un peu de mystère, on ne sait pas qui c'est, un coup de cochon, et puis hop, et les gens arrivent. Donc 120 personnes qui viennent. Effectivement, lorsque les gens vont arriver, on va demander sur quel sujet ils souhaitent réfléchir pendant la soirée. Donc déjà, la question surprend. Réfléchir. C'est-à-dire, moi, je suis juste venu voir la tête des papas, enfin, des gens, là, et puis de voir un coup et discuter avec les copains. Quoi. Donc, du coup, alors, on leur dit, voilà, vous avez le choix entre 8 sujets, il va falloir choisir du coup un sujet sur lequel vous allez réfléchir pendant ce soir. Donc, les 8 sujets qu'on leur présente, en fait, c'est les 8 compétences de la mairie. Si vous avez remarqué aussi, les compétences ont tendance un petit peu à fuir l'échelon municipal. Vous avez vu ça aussi un petit peu là, oui, on est en train de passer à l'échelle de l'interpro, les interpos de plus en plus grosses. Hein ? On se rapproche de. Ah oui, non, on se rapproche de plus en plus. On se rapproche de plus en plus de citoyens. Non ? Bon, ouais. Donc voilà. Donc on leur présente quand même 8 compétences, des compétences qu'on n'a plus d'ailleurs, par exemple, on leur présente la compétence économique, on l'a déjà depuis bien longtemps pour l'interpro, mais on a quand même décidé de garder quand même quelques sujets chez nous. Et lorsque les gens rentrent dans la salle, en fait, ils s'attendent à voir dans la salle, vous savez, comme d'habitude. Il y a des gens sur une estrade, et puis vous êtes la plèbe, vous êtes dans la fosse. La lumière n'est pas dirigée vers vous, la lumière est dirigée vers la personne qui est sur l'estrade. C'est-à-dire que vous allez accueillir la lumière, vous allez accueillir la parole. C'est ça que ça se passe habituellement quand vous allez. C'est quand même bizarre, quand même. C'est-à-dire que pendant ces soirées, en fait, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont un programme pour vous. Il y a des gens qui vont vous dire voilà comment vous allez vivre dans votre village, dans votre ville, pendant les 6 ans qui viennent. Ça ne vous fait pas ça? C'est ces gens qui parlent, disons, qui ont une vision pour vous, en fait, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est des connexions neuronales qu'ils ont en plus? Ou ils ont été touchés par la lumière divine au moment de... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment des gens peuvent, à un moment donné, se présenter devant nous en nous disant « Voilà comment va se passer votre vie dans les 6 ans qui viennent. » Sans nous demander notre avis, en fait. Parce que dans ces soirées-là, on ne nous demande pas notre avis, en fait, on nous présente un programme. Voilà. Donc les gens s'attendent un petit peu à un truc un peu comme ça, avec des gens sur l'estrade, donc sur la lumière, et puis eux, du coup, qui vont attendre qu'on leur dise comment ça va se passer dans leur vie pendant les 6 ans qui viennent. Et en fait, bah non, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que quand ils rentrent dans la salle, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'estrade, et en fait, il y a 8 cerfs de chaises qui les attendent, et chacun de ces cerfs va correspondre à une thématique. Donc vous avez un cerf urbanisme, un cerf environnement, un cerf finance, un cerf économique, etc., etc. On a 8 grands thèmes. Et pendant la soirée, on va les faire travailler pendant 1 heure sur le diagnostic de leur village, sur la thématique sur laquelle ils sont installés. D'accord ? Donc ils vont faire un diagnostic sur l'urbanisme, un diagnostic sur l'environnement, etc. Et pendant 1 heure et demie qui va suivre, on va leur demander de déterminer des orientations pour un futur programme. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait un programme. On fait un état des lieux, puis après on se donne des orientations. Ça va, c'est plus classique, hein, lorsqu'on construit un projet. Voilà, donc la réunion dure 2 heures. À la sortie de la réunion, et pendant les jours et les 2 ou 3 semaines qui ont suivi, il y a eu un véritable émoi dans le village. Les gens ont vraiment été touchés par cette réunion. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je suis en train de vous raconter. On n'est pas venu avec un truc, on leur a demandé leur avis. On est venu avec une page blanche. Et on leur a demandé de construire les fondations d'un futur programme. Et bien ça, les gens n'étaient pas très habitués à faire ça. Et les habitants ont discuté entre eux, et puis ils sont venus nous voir en nous disant « Eh bien, on ne s'arrête pas là, les petits loups, maintenant, on va en faire une deuxième réunion. » Vous avez bien compris que c'était pas une blague, mais c'était un bouquet dans la masse, vous voyez, on n'était pas une liste, nous, en fait. Hein. Il n'était pas question d'aller jusqu'au municipal, jusqu'aux élections, pour remonter cette deuxième réforme. Bah, sauf que là, du coup, on a été poussé et on a été obligé d'en monter une deuxième soirée. C'était une deuxième soirée. 3-4 semaines après la première. Et à la deuxième soirée, on a 90 personnes qui viennent. Je ne sais pas si ça a marché dans la Cévennes, ça, mais donc, je suis allé dans d'autres endroits dans la Cévennes, ça n'avait pas marché non plus. Donc, on va voir avec vous. Si je vous dis 90, c'est plus que 120. Vous connaissez ?
En fait, je vous donne un petit indicateur, les 90 qui sont nus, ils sont nus avec un stylo. Est-ce que je veux dire les 120 qui étaient venus au début, ils sont venus par curiosité, ils sont venus pour voir notre tête, pour voir, ils sont venus pour voir ce qui se passait. Les 90 qui viennent la deuxième fois sont les gens qui viennent travailler. Donc la vraie bonne nouvelle, c'est pas les 120 de la première fois, c'est les 90 de la deuxième. 90 personnes qui nous disent, oui, je veux construire un programme conseillant et je veux travailler à ça. Donc on fait la soirée dure 4h30, ça s'éternise. Il y a toujours les 8 cercles de chaises, donc les gens s'inscrivent sur une thématique. On leur demande de saisir d'une orientation, ils sont en binôme, ils sont par deux. Ils saisissent une orientation, on leur demande de déterminer, d'écrire un projet en lien avec l'orientation qu'ils ont saisie. D'accord ? État des lieux, orientation, projet. Et en fait, ils nous sortent 66 projets, ils écrivent 66 projets. Il y a des binômes qui nous en écrivent 2 ou 3. On ne les arrête plus. Et en fait, à chaque fois qu'ils écrivent un projet, on leur demande d'écrire ça sur une feuille de paperboard et ils présentent leur projet devant les habitants. Parce qu'à la fin, il va falloir voter. Voilà. Alors c'est là, du coup, il y a une contrainte technologique. Donc l'histoire que je vous raconte, c'est que ça nécessite du coup du matériel un peu high-tech. C'est-à-dire qu'il nous faut quand même des feuilles de paperboard. Il nous faut des marqueurs, de la pâte à fixe pour coller les feuilles de paperboard, des post-it. De 2 couleurs différentes. J'en profite pour faire le point avec Jérôme du coup sur le matos qu'il a prévu pour. Et des gommettes de 2 couleurs différentes également. Voilà. La gommette, je ne suis pas sûr qu'on fasse ça pendant les ateliers. La gommette est un outil de manipulation de masse. Une autre situation, il y a plein de projets et je vous donne des gommettes. Vous avez 2 gommettes et je vous dis allez coller vos gommettes sur les sujets sur lesquels vous souhaitez vous engager. Si je fais ça à main levée, a priori vous allez me faire voilà, l'engagement, bon, ensuite c'est bon, vous avez des trucs à faire. S'il faut coller des gommettes. Je ne sais pas d'où ça vient en plus, tout à l'heure, parce que ça fait un peu d'enfance. Et on a tous en plus, je pense qu'on n'a jamais collé assez de gommettes. On n'a pas assez de gommettes. Ça serait trop con de ne pas coller ces gommettes. Mais tu vois, tu as l'occasion là de coller des gommettes, tu les as dans les mains, et là tu dis non. Non, effectivement, j'ai pas le temps, ça serait pas raisonnable, machin, mais ça te brûle les doigts. Ça c'est plus une stratégie majeure. Du coup, si vous voulez provoquer de l'engagement du coup, chez les habitants et chez les gens avec qui vous travaillez, vous leur filez les doigts. On essaiera d'éprouver ça demain, on va pas avec. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas trop d'enjeux parce qu'en fait, on a donné. Donc, les 66 projets sont collés, les 66 feuilles de paperboard sont collées le long du mur, et on donne 10 gommettes à chaque participant. Et on leur demande d'aller coller leurs gommettes sur les sujets qui leur semblent prioritaires pour celle-là. On compte les gommettes, et on se retrouve avec 30 projets prioritaires pour celle-là. Et on se retrouve avec un tract de campagne qui est composé strictement des 30 projets déterminés, construits par les amis. Il n'y avait pas d'équipe de synthèse. Vous avez des équipes de synthèse dans les semaines. C'est des gens un peu plus intelligents que la moyenne qui sont dans ces équipes-là. Et là, c'est des gens qui sont capables de trouver, dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, sont capables de trouver ce qui est important. Non, vous avez des gens qui sont capables. Il y en a peut-être dont c'est le métier, d'ailleurs, en cette salle, hein, du coup, hein, de déterminer ce qui est important. Ouais. Et il y a des gens qui sont dans les équipes de santé, qui sont tellement forts qu'ils arrivent à faire sortir des idées qu'on n'a même pas eues. Et ça, c'est parce qu'ils ont un niveau, encore une fois, c'est comme les gens qui se présentent avec un programme, il y a une espèce de conscience qui est largement au-dessus de la moyenne. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il faut faire attention avec les synthèses des réunions. Des fois, on demande votre avis, et puis finalement, les gens qui vont faire la synthèse, vous voyez, on peut avoir l'impression que la synthèse a déjà été faite avant. Là, des fois, ça donne cette impression-là. Alors c'est pas parce qu'ils vous roulent dans la farine, c'est parce qu'ils sont un peu plus intelligents que vous. Pour ça. Donc voilà, nous il n'y avait pas d'équipe de synthèse, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrigé quelques fautes d'orthographe et des fautes de syntaxe, et puis on a mis ça comme on a pu sur notre track de campagne. Donc on se retrouve avec un programme. Je vous dis qu'on se présentait sans programme, ça y est, on a un programme. Alors on a un programme qui ressemble à rien. Hein. Vous vous rendez bien compte qu'en posant des comètes et en accumulant juste les 30 projets qui ont plus de suffrages, ça ne ressemble strictement à rien. Pas du tout un projet politique, mais c'est l'exercice qui est important. On en discutera de ça après, mais On s'en fout du programme, en fait. En fait, on a fait vivre aux gens ce qu'ils allaient vivre éventuellement pendant 6 ans de mandature. C'est ça le jeu, en fait. Donc ça n'a jamais été notre programme. C'est juste de dire aux gens, vous êtes en capacité de faire un état des lieux de votre village, vous êtes en capacité de déterminer des orientations, vous êtes en capacité d'imaginer des projets. Donc on a un programme un peu fantoche, du coup, mais qui nous a servi d'exercice. Et il nous manque donc les candidats. Je vous rappelle qu'on s'est présenté aussi sans candidats. Donc pour avoir des candidats, en fait, à chaque réunion, on faisait circuler une feuille d'émargement sur laquelle il était demandé aux gens leurs coordonnées, s'ils voulaient bien nous les donner. Et ils avaient 3 cases possibles. Première case, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, je vous laisse faire mes coordonnées. Deuxième case, ce que vous faites m'intéresse, tenez-moi au courant. Troisième case, ce que vous faites m'intéresse tellement, je veux rentrer sur la liste. Eh bien, nous avons 22 personnes qui ont coché la troisième case. Alors, normalement, je pense que dans des petits villages comme le vôtre, ça doit provoquer un émoi, du coup, cette déclaration. 22 personnes dans un village de 1200 habitants qui, suite à une réunion publique, se disent « Tiens, si j'allais, du coup, sacrifier 6 ans de ma vie pour les affaires communales. » Vous voyez ? C'est un peu ça, quand même, le boulot d'élu. Je ne sais pas s'il doit y avoir des élus dans la salle. C'est un engagement majeur d'être élu. Hein. C'est quelque chose, enfin, c'est un engagement. Enfin, c'est pas la présidence du club de ping-pong, vous voyez, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des présidents du club de ping-pong ici, mais vous voyez, c'est pas exactement le même type d'engagement. On est sur des choses très lourdes, quand même. Donc c'est pas rien comme décision d'aller partir sur ces gens. Donc nous, on a quand même 22 personnes qui nous disent, en gros, si la démocratie c'est ça, je veux bien y aller. Parce que sur les 22, on fait aussi le constat que sur les 22, il n'y en a aucun qui n'a eu de mandat auparavant. Aucun ne s'est jamais présenté sur une élection locale ou non locale. Et bien nous, on en a trop. Parce qu'en fait, il faut des listes de 15. François n'a pas eu exactement le même problème. Et François a vraiment galéré pour avoir 14 colistiers. C'est là que quand vous êtes servi des autres colistiers comme le mandat, c'est-à-dire que vous ne leur avez jamais demandé leur avis, ça va être compliqué de leur demander de revenir dans la mandature d'après. Vous voyez. Les autocrates ont un mal fou à recomposer des listes parce qu'ils ont pris leurs colistiers pour des idiots pendant 6 ans. Vous voyez. Donc à un moment donné, sauf ceux qui aiment bien ça, il y en a. Hein. Sinon, les autres, en gros, il y a juste un peu de sens. Quoi. Du coup, c'est... Mais non, je ne vais pas partir avec toi, tu ne me demandes jamais mon avis, de toute façon, tu prends la décision seule. Donc François a eu vraiment du mal à composer sa liste de 15, il y est arrivé. Il a eu du mal à le faire. Et nous, on en avait trop. Alors ce qu'on a décidé à ce moment-là, en fait, c'est qu'on allait déterminer l'ordre de la liste, et surtout la tête de liste seulement à la fin de la campagne. On a décidé ça, en fait, parce qu'on s'est dit qu'il fallait arrêter de voter pour l'homme ou la femme providentielle. Est-ce que vous savez que personne ne va vous sauver? Vous savez ça déjà ou pas? Ouais. Ah. C'est dur hein, de se dire ça, mais enfin, moi je suis aujourd'hui convaincu de ça. Il n'y a pas de sauveur en fait, hein, du coup. Hein. C'est arrivé il y a quelques temps, quelqu'un arrive à ouvrir la mer en deux, machin, pour plus passer. Mais ça arrive rarement. Et la prochaine fois que ça va arriver, franchement, peut-être demain, hein, mais enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Du coup, hein, donc, alors, soit vous attendez, du coup, que quelqu'un ouvre la mer en deux pour vous, soit vous considérez que vous êtes les hommes et les femmes providentielles. Il y a quelque chose de ce genre-là, il faut faire un choix à un moment donné. Et on est un peu, nous, dans une société, vous voyez, où on compte un peu là-dessus, quoi, quand même. Hein. Et encore un truc, séparation de l'Église et de l'État, c'est pas complètement clair encore dans nos têtes. Mais il y a encore un truc, ouais, le maire, le président de la République, il y a encore un truc qui vient de me faire arriver. Non ? Ah, on lui confère quand même. Déjà, vraiment, les responsabilités qu'on confère à un maire, c'est la folie en fait. Hein. Et le premier village dans lequel je suis intervenu, c'était à Soudor, c'est dans les Cévennes. À Soudor, en fait, on a fait intervenir parce que le maire était mort. Et le constat des habitants, c'était de se dire c'est inhumain de filer toutes ces responsabilités à une seule personne. Ils disaient pas que c'était de leur faute si le maire était décédé. Ils disaient que ça allait contribuer très largement au niveau de stress, de fatigue dans lesquels il était aujourd'hui. Donc mon propos n'est surtout pas de dire de jeter l'opprobre sur les maires et sur les gens qui s'engagent aujourd'hui. Il faut arrêter de leur filer toutes ces responsabilités à ces gens-là. C'est pas bon pour leur santé. C'est pas bon pour leur santé mentale. Et c'est pas bon pour leur santé physique. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais pas. Voilà. En gros, voilà, donc on est 22, on arrête avec les hommes et les femmes providentielles, parce que ces gens-là finissent par faire des burn-out qui sont portés comme des sports. Donc il faut arrêter avec ça. Et on va plutôt du coup dire aux gens qu'on n'a pas de tête de liste. Donc vous imaginez bien que pendant toute la campagne, la première question qu'on nous posait, c'est comme partout ailleurs, hein, c'est qui la tête de liste? Sauf que nous on disait, bon, on ne sait pas. Et on ne savait vraiment pas. Parce qu'on n'avait toujours pas choisi. Ouais. Et puis on s'est dit aussi qu'à la fin d'une campagne, ça serait naturel. La tête de liste serait assez naturelle. Donc, la liste devance, on doit présenter, je crois, 3 semaines ou 4 semaines en préfecture, la liste complète. Donc nous, on fait une réunion juste avant le dépôt obligatoire de la liste en préfecture. Et donc, on réunit les 22 candidats dans une salle. Et on va, du coup, effectuer le choix des 15, et puis le choix de la tête de liste. Dès le démarrage de la réunion, en fait, on a 5, 6, 7 personnes qui nous disent « Je viens de vivre la campagne et je viens de me rendre compte, enfin, je me suis rendu compte pendant la campagne que ce n'était pas compatible avec ma vie, c'est trop d'engagement. » Ouais, c'est ça aussi l'intérêt de faire ça à la fin, c'est que les gens vont vivre une campagne c'est aussi engageant. Et du coup, il y a des gens qui vont se dire « C'est pas possible, c'est juste pas possible avec ma vie. » Donc voilà, donc on va rapidement passer de 22 à 15. Et après, on va choisir notre tête de liste. Alors, pour choisir notre tête de liste, on va faire un truc bizarre, on va faire une élection sans candidat, sans même savoir que ça existe. La sociocratie, ça vous dit quelque chose? Peut-être à certains, pour les autres, nous viendrons aux ateliers demain et après-demain. C'est des modalités de gouvernance partagée. En fait, c'est pour sortir des modalités pyramidales et purement verticales. Il y a des modalités, du coup, des modèles de gouvernance partagée qu'on a inventés. L'élection sans candidat est un des outils qu'on utilise pour gouvernance partagée. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déterminer ce qu'on attend d'un maire. Assaillant. Pour déterminer qui devra prendre le poste. Vous voyez, ça c'est une question qu'il faudrait se poser à chaque fois, ça, vrai. On va élire quelqu'un, on se demande même, on ne sait même pas ce qu'on attend de lui, en fait. Ben, nous, on a pris un temps pour se dire qu'est-ce qu'on attend d'un maire. Et nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'un maire, pour nous, c'était pas forcément quelqu'un de charismatique, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui avait une idée pour son village. Non, nous, pour un maire, nous, c'est plutôt quelqu'un qui est en capacité de discuter avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est capable de faire de la médiation. C'est quelqu'un qui est capable de travailler avec une liste plurielle. Parce que du coup, notre liste de 15, elle est très plurielle pour le coup. Et on a des gens qui ont des convictions assez différentes dans cette liste. Et donc, il va falloir qu'on ait quelqu'un, du coup, qui est capable de faire discuter ces 15 personnes pendant toute une mandature. Donc, on va plutôt chercher quelqu'un qui a ces capacités-là. Donc, quelqu'un qui n'a pas trop d'idées préconçues sur ce qui doit se passer dans le village pendant 6 ans. C'est à peu près exactement l'inverse qu'on cherche sur une tête de liste habituellement. Vous êtes d'accord avec ça? On va plutôt chercher quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui va dire « moi, je sais, et voilà ce qui va se passer. » Voilà. Donc, c'est exactement l'inverse qu'on a choisi. C'est quelqu'un qui ne savait pas. Et justement, parce qu'il ne savait pas, il était capable de discuter avec tout le monde. Donc voilà, donc on se détermine ça, et après on donne un post-it à chacun des 22 candidats, et on leur demande d'écrire le prénom de la personne qui, d'après eux, correspond le plus au profil qu'on vient de déterminer ensemble. Et là, c'est Vincent qui l'emporte. Vincent est donc déclaré tête de liste de la liste qu'on est en train de monter. Ça ne se passe pas comme ça d'habitude. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'est-ce qui veut y aller. Ou avant même qu'on ait le temps de dire qu'est-ce qui veut y aller, on a tout de suite quelqu'un qui nous dit bon, moi, je veux bien y aller. Ouais. Il y a juste un principe, qu'on ne peut pas généraliser à 100%, mais quand même, globalement, ça marche quand même assez souvent. Il faut éviter de donner le pouvoir à celui qui le veut. Ouais. C'est un truc arbitre pour voir quand même. Hein. Le pouvoir, c'est quand même c'est des responsabilités, c'est des soucis, c'est une drôle d'attraction quand même, hein, d'être attiré par le pouvoir. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas forcément un signe de bonne santé mentale, vous voyez, les gens qui sont attirés par le pouvoir. Bon, c'est bizarre quand même. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, du coup, c'est plutôt de faire des élections sans candidat quand vous montrez vos listes, mais de tendre un piège aux gens. Commencez votre soirée, comme d'habitude, du bois. C'est qui veut être tête de liste? Et les gens qui lèvent la main, vous leur dites « Ah ah, ça sera pas toi !» C'est ça, en début de campagne, tout ça, vous n'emmerdez pas. Voilà,
15 personnes, une tête de liste, un programme. On se présente aux élections. La liste collégiale, d'ailleurs, parce que ça, c'est notre première victoire, c'est qu'on n'a jamais parlé de la liste de Vincent Béillard, on a toujours parlé de la liste collégiale, puisqu'il n'y avait pas de liste jusqu'à la fin. Donc les gens parlaient de la liste collégiale. La liste collégiale l'a emporté avec 56,7% des suffrages et 80% de participation. Il y a des salles qui applaudissent ce soir-là. Voilà, donc, 300 personnes dans la cour de l'école, parce que nous, on fait ça dans la cour de l'école. Hein, on n'a pas d'endroit dédié pour ça, la mairie, c'est tout petit. Donc, on fait ça dans la cour de l'école, il y a un monde fou. On est 300 à faire la bringue. Imaginez un quart du village qui fait la fête. Je ne sais pas si ça se passe partout comme ça. En fait, on se redira aussi ça, mais pour ceux qui veulent monter une liste participative, je vous invite du coup à le monter avec seule condition que vous y preniez du plaisir. Si vous ne prenez pas du plaisir à faire ça, faites autre chose. Promettez-moi si vous pouvez faire autre chose. On ne se lance pas dans un truc comme ça par sacrifice, quoi. Arrêtez de vous sacrifier. Parce qu'en fait, vous allez finir par le faire payer à tout le monde. À vous en premier et aux autres aussi. Il faut qu'il y ait du plaisir, pour qu'il y ait de la joie. Toute cette campagne a été une histoire de rencontre de gens, d'hommes et de femmes qui ont appris à se connaître, à discuter, à faire la bringue, à pleurer ensemble, à rire ensemble. C'est que ça, cette histoire. Et c'est pour ça que ça a gagné, en fait. C'est parce que c'est une histoire qui était basée sur de l'envie et sur du désir. Voilà. Donc je vous invite vraiment à y aller qu'à cette condition-là. Voilà. Donc on a gagné. Et au lendemain des élections, vous savez, des fois, il y a des listes qui ont gagné un peu par hasard, qui sont réveillées avec la gueule de bois, en disant « Oh merde, oh les cons, 6 ans oh, non, les gars, non, c'était une blague, on revient en arrière. » Alors nous, on n'a pas eu ça, c'est parce que je vous ai dit, pendant les 6 mois de campagne, les 5 mois et demi de campagne qu'on a fait, on n'a jamais parlé vraiment de démocratie aux gens, on leur a fait vivre des processus démocratiques. Et en fait, ce qu'on leur a fait vivre, c'est ce qu'ils allaient vivre pendant les 6 ans de la mandature. Donc les 6 cercles, vous vous rappelez les 6 cercles, se sont transformés dans le schéma municipal en commission thématique. Donc à Saillant, vous avez 8 commissions thématiques, environnement, urbanisme, etc., etc., qui se voient une fois par an. Et ce qu'elles font une fois par an, c'est faire un diagnostic du village et sortir 3 projets d'habitants à conduire dans l'année. Alors 3, parce qu'on disait 8 fois 3, ça fait 24, ça fait déjà beaucoup.
Non.
Ça fait pas déjà beaucoup, c'est complètement con de sortir 24 projets d'habitants par an, c'est beaucoup trop. C'est n'importe quoi. Dans un village de 1200 habitants, c'est juste n'importe quoi. On a fait 300 réunions publiques en 2 ans et demi. Tu vois, si vous voyez le truc de fou. On a fait 2, 3, 4 réunions par semaine. Et si on en faisait, c'est parce que les gens venaient hein, quand même. Hein. Ouais, on a fait des réunions à 2. Hein. Voilà. Donc on s'est totalement emballé dans nos histoires. Et on s'est retrouvé à un moment donné avec une arborescence de projets où on s'est dit, mais on fait n'importe quoi en fait, ça sort de partout. Voilà. Donc il ne faut pas faire ça. Mais nous on l'a fait parce qu'on était encore dans cette énergie de campagne et puis les gens venaient vraiment quoi. Donc voilà, donc on a les commissions thématiques, les 8 commissions thématiques, on s'est faire un diagnostic et sortir 3 projets. Et chacun des 3 projets est travaillé dans une autre type de réunion qu'on appelle une groupe action projet, une autre instance. Le GAP, le groupe action projet. Et le groupe action projet, du coup, l'idée, c'est de conduire le projet jusqu'à son exécution. D'accord ? Il ne s'agit pas de demander aux habitants de dire aux élus ce qu'ils doivent faire. Il s'agit de faire travailler ensemble des élus et des habitants, de conduire les projets jusqu'au bout. Ça va ? Il y a des commissions thématiques qui font sortir des projets. Chacun des projets se travaille dans une autre instance qui s'appelle le groupe action projet. Et là. Tac, donc 300 réunions, beaucoup trop. Et ensuite, ce qui se passe, Saillant est une démocratie représentative, c'est pas la démocratie directe. Ça nous arrive de temps en temps de faire la démocratie directe, mais Saillant est globalement une démocratie représentative. En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos réunions, nous avons systématiquement des élus et des habitants qui siègent. D'accord ? Ce qui veut dire que lorsque l'élu vient siéger, lui, dans l'instance délibérative,
conseil municipal, mais c'est plus compliqué que le conseil municipal, parce que je dirais tout à l'heure, rien ne se décide dans un conseil municipal, vous savez. Une pièce de théâtre, vous savez. On en dira tout à l'heure. Donc, du coup, notre vraie instance exécutive, c'est pas tellement le conseil municipal, ça c'est l'instance administrative, obligatoire, qui entérine les choses. On a une autre instance où, du coup, on décide les choses. Et en fait, lorsque dans les commissions thématiques et dans les groupes action projet, il ne se décide rien, il se construit des projets. Et ensuite, le rôle de l'élu, c'est d'aller dans l'instance exécutive et d'aller défendre le projet qui a été construit avec les habitants. Et c'est bien dans l'instance exécutive composée d'élus que les décisions se prennent. Et je vous dis que nous, on n'a pas de problème avec la représentation, parce que du coup, lorsque l'élu représentant des habitants siège dans l'instance exécutive, il ne siège pas avec ses idées propres, il représente et il porte les idées qui ont été construites avec les habitants. Et là où ça devient drôle, c'est lorsqu'à la fin du processus de discussion et de construction avec les habitants, lorsqu'il n'est plus en accord avec le projet. C'est là où ça devient drôle. Parce que vous vous rendez bien compte que son avis, au moment où il arrive dans la commission exécutive, on s'en fout, son avis propre. Il nous intéressait au début, pendant la construction avec les habitants, son avis, évidemment. Il a le droit d'avoir une pensée aussi. Mais à la fin, une fois qu'on a malaxé tout ça, si le projet ne lui correspond plus, et bon, on lui demande de continuer à faire son boulot. Et son boulot, c'est de représenter, de porter le projet qui a été construit avec les habitants. Donc nous, dans ce cadre-là, on n'a pas de problème avec la représentation. Dans nos réunions, je ne sais pas exactement comme ça que ça se passe dans la vie ailleurs, mais nous, on essaie en tout cas de faire vivre ça. Ce n'est pas non plus tout le temps comme ça que ça se passe à Saint-Denis, donc vous imaginez bien. Dans nos commissions et dans nos GAP, en fait, on a quatre catégories d'acteurs. Donc on a des habitants experts de leur situation, experts de leur vie, experts de leur village. Vous savez que vous êtes experts de vos vies. Voilà, parce que vous vivez loin de tout, vous savez déjà. Vous êtes pas, du coup, nous, quand on habite en ville, on a des experts pour tout, nous, hein, en fait. Hein. Vous savez que maintenant, les enseignants sont les experts de l'enfant. Quand vous avez des enfants, en fait, c'est pas vous vraiment l'expert, c'est l'enseignant. Quand vous avez un chien, par exemple, vous avez des gens qui sont experts de votre relation avec le chien, par exemple. Dans tous les secteurs, en fait, dans tous les domaines, vous avez des gens qui savent mieux que vous, en fait, vous savez, et qui sont capables, donc, du coup, de vous donner une expertise sur... parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas fait les études tout à l'heure. Donc voilà. Nous, on va quand même considérer que l'habitant est doté d'une expertise, qu'on va appeler expertise d'usage. Il y a l'usage d'un commun qui est le village, le quartier, la ville. Donc de ce point de vue-là, il a une expertise, il a donc un point de vue d'expert à donner sur la construction des projets. Donc ça, c'est le premier acteur. Deuxième acteur, c'est l'élu. Il n'y a pas de réunion s'il n'y a pas d'élu. On fait du travail associé systématiquement. Pour que l'élu puisse représenter l'habitant, vous imaginez bien qu'il faut que l'élu bosse avec l'habitant. Sinon, il ne représente que lui. D'accord ? Donc on le fait bosser systématiquement avec les habitants. Le troisième acteur de nos réunions, c'est l'expert technique. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'une expertise technique. Je suis en train de vous dire qu'on n'a pas besoin d'expertise technique. Je suis en train de vous dire qu'il faut prendre en compte l'expertise de l'habitant. Mais l'expertise de l'habitant doit parfois être qualifiée par une expertise technique sur tel ou tel sujet. Sauf que l'expert technique, on va lui faire prendre la parole. On se mimera tout à l'heure une réunion consultative avec un expert. Vous allez voir que nous, l'expert, on ne fait pas parler au même moment. Donc le troisième acteur, c'est donc l'expert. Le quatrième acteur de nos réunions, c'est l'animateur. Demain et après-demain, je vais essayer de vous démontrer par A plus B que sans animateur, vous allez avoir du mal à créer des processus démocratiques. Vous allez avoir du mal à prendre des décisions collectives. Le boulot d'animateur, en fait, c'est d'être le garant du processus, d'accord ? C'est la personne qui va vous proposer des outils, des méthodes, qui va distribuer la parole et qui va vous faire toute une série de propositions et qui va essayer de garantir qu'à la fin des 2 heures de réunion, la décision soit prise. D'accord ? Ça, c'est le boulot de l'animateur. L'animateur a donc une forme de pouvoir sur la réunion. Parce que c'est lui qui l'anime, c'est lui qui la guide. Donc, ce qu'on va lui demander en retour, c'est de ne jamais donner son point de vue sur le sujet. Parce que sinon, ça lui donnerait trop de pouvoir. Ouais. Heureusement, en France, sinon on ne serait pas en démocratie, heureusement, en France, ça serait quand même une hérésie si c'était le maire qui animait les conseils municipaux.
Alors pour ceux qui sont dans le monde associatif, ça serait aussi une hérésie si c'était le président du bureau associatif qui menait les conseils d'administration. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Ouais, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on donne à peu près tous les pouvoirs à la même personne. C'est plus la démocratie, c'est la dictature. On ne peut pas donner le pouvoir à une personne de guider les débats, c'est-à-dire de couper la parole, de donner la parole, et en plus donner le pouvoir à la même personne de trancher à la fin.
C'est ça.
C'est de la folie de faire ça, en fait. Voilà. Mais nous, on le fait. Voilà. Donc nous, du coup, dans notre système, l'animateur est là pour permettre au pouvoir de s'exercer. En fait, mais le pouvoir, ce n'est pas lui qui l'a. Lui, il a juste un pouvoir, c'est le pouvoir de conduire la réunion et le pouvoir d'aller jusqu'à... Enfin, de guider, en tout cas, un processus de prise de décision. Voilà. Et l'animateur, il fait un autre truc aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un petit personnage qui se sommeille. On a tous un petit personnage qui se sommeille à l'intérieur de nous. Alors moi, je l'appelle le grand mal blanc de nous. C'est ce petit personnage qui le rend totalement insupportable en réunion. Vous le voyez, celui-là ou pas ? C'est ce petit personnage qui fait qu'à un moment donné, vous coupez la parole, vous parlez plus fort que les autres, vous voulez absolument avoir raison, vous énervez. Et c'est ce petit personnage, quand vous rentrez à la maison, vous regardez, vous dites « Oh putain, je me suis encore comporté comme un con. Et je peux pas m'en empêcher. » Vous voyez ce petit personnage-là ? Du coup, c'est des sujets qui vous sont un peu chers. Alors moi, j'ai un grand mal blanc dominant qui est très développé. C'est pour ça que je fais de l'animation, moi, c'est une forme de thérapie. Du coup, ça me permet de comprendre ce truc-là. Et en fait, j'ai essayé de travailler un peu là-dessus en me disant « Mais pourquoi tu te comportes comme ça ? Pourquoi tu t'énerves comme ça dans la réunion ? Pourquoi tu prends autant de place ? Pourquoi tu parles autant ? Pourquoi tu coupes la parole ? Pourquoi tu as toujours l'impression d'avoir raison ?» Et bien en fait, chez moi, en tout cas, c'est lié à une carence affective. J'ai pas été assez aimé quand j'étais petit. Et puis du coup, je suis obligé d'en faire des tomes pour être reconnu par les autres. Donc j'ai besoin, plus que la moyenne, du coup, de m'agiter dans tous les sens. De dire, c'est moi qui ai raison, c'est moi. Ouais. Et je crois vraiment chez moi, le principal ressort de ce comportement-là est vraiment lié à une carence affective. Donc je suis en train de vous dire en fait qu'il ne faut pas jeter les gens comme moi, en fait, il ne faut pas les écarter, il faut juste les canaliser, les cadrer et les prendre dans vos bras. L'animateur, il cadre et il prend dans ses bras. Alors, vous inquiétez pas, demain après non, on va pas se faire des câlins, c'est pas des bisous hein, du coup, hein. Mais on a une espèce d'attitude bienveillante à l'égard de ces gens-là. Ouais. On cadre, mais on est bienveillant aussi. Voilà, donc avec tout ça, on fait des règles. J'en ai bientôt fini pour vous faire un peu. Vous avez rien déjà ?
Moins un.
Ouais, puis j'étais un peu long, j'en finis. S'il y avait une phrase du coup qui devait résumer un peu toute l'aventure que je vous parle et qui devait résumer cette conception de la démocratie locale, ça serait de considérer qu'en démocratie, le politique c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu c'est le représentant du politique. Je vais s'infuser un peu. Ça paraît tellement évident. Mais c'est tellement pas si grave.
C'est ça
le truc. Hein. C'est pour ça que je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes en fait. Hein. Depuis le début, vous avez essayé de faire du temps. C'est évident tout ça. Donc le politique, c'est l'habitant. C'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. Donc en fait, on ne va pas demander aux élus d'avoir une pensée politique, d'avoir une vision politique. C'est pas la première chose qu'on va leur demander. La première chose qu'on va leur demander, c'est d'être garant d'un processus qui permet à l'habitant de passer d'une pensée individuelle à une pensée collective. C'est ça faire du politique, hein. C'est permettre à chacun de passer d'un intérêt individuel à un intérêt collectif. Vous savez, il y a des gens souvent qui disent « Ouais, il y en a marre dans les réunions, les gens viennent, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur palier de porte, ils pensent qu'à leur intérêt individuel. » Et ben moi, c'est les gens qui sont portés par l'intérêt général qui me font flipper, moi, vous voyez. C'est normal de venir porter par l'intérêt individuel lorsque vous participez à une réunion. C'est ça. Vous allez défendre quelque chose. Les gens qui sont portés par l'intérêt général, moi, ça me pose question, du coup, c'est qui vous a donné le partage, du coup, la représentation de l'intérêt général ? Où est-ce que vous l'avez chopé, l'intérêt général, du coup ? C'est qui l'a défini ? Vous avez déjà posé cette question-là, du coup ? C'est quand même étonnant, les gens qui sont portés par l'intérêt général. Il a été conçu avec qui l'intérêt général, en fait ? Alors des fois, il suffit d'être élu, vous voyez, là, d'un seul coup, bam, vous avez le blason d'intérêt général. C'est une blague ou pas? Maintenant, donc, pour moi, l'intérêt général et l'intérêt collectif, ça se construit en écoutant l'ensemble des intérêts individuels. Une démocratie, c'est une société, en fait, où on va considérer qu'on est divisé. C'est une société dans laquelle on va considérer qu'on ne pense pas la même chose et qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Une démocratie, c'est une société où on va faire l'effort d'écouter les points de vue différents de chacun. Et c'est une société dans laquelle les décisions ne vont pas se prendre à la majorité, parce que la majorité, c'est la tyrannie du nombre. Les décisions vont se prendre suite à un arbitrage, après avoir écouté les intérêts de chacun. Pour moi, c'est ça, un processus démocratique. Il ne suffit pas de voter. Il s'agit d'entendre les points de vue divergents et de prendre une décision d'arbitrer sur la base de ces divergences. C'est ce qu'on va faire demain après-midi. Allez voir. Voilà, pour moi, ce serait ça à peu près la définition de la démocratie, et donc c'est de considérer tout ça. Une liste participative idéale pour moi, maintenant que je vous ai dit ça, ça serait une liste qui rassemblerait des gens qui seraient de sensibilité, qui iraient du Rassemblement National jusqu'aux Insoumis. Ça serait ma liste participative idéale. Une liste participative qui fait le pari que dans la gestion des affaires locales, c'est-à-dire dans la gestion des affaires de notre village, de notre quartier, de notre ville, on va être en mesure, avec toutes ces sensibilités, de prendre des décisions. Et en fait, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, parce que moi, du coup, sur un échiquier politique, peut-être que la personne la plus éloignée de moi, idéologiquement, ce serait peut-être quelqu'un qui serait au Rassemblement National. Peut-être. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis d'accord avec un électeur du Rassemblement National sur 95% des sujets qui ont été traités à Saillant. Je vais vous en faire quelques-uns, du coup. On a traité l'aménagement du rythme scolaire. On a mis un propos collectif, on a éteint les lumières la nuit, on a repensé les sens de circulation, on a refait le PLU, on a repensé l'aménagement des bords de ronde, etc., etc. Sur tous ces sujets-là, sur tous les sujets locaux, je vous invite à sortir de vos postures idéologiques pour aller se mettre autour de la table avec des gens qui, a priori, ne pensent pas comme vous. Il y a peu de chances pour que ce soit moi qui revienne sur mes valeurs. Si je me mets autour de la table avec des gens qui ne pensent pas comme moi, je ne vous demande pas d'abandonner vos valeurs, je vous demande de faire l'effort de vous reconnaître sur des sujets locaux. Voilà. C'est un peu la proposition que je vous fais. Parce que moi, je l'ai fait, c'est assez désagréable, mais il y a quand même quelque chose qui s'ouvre au bout d'un moment autour de ces questions-là. Et puis je crois que j'en ai fini avec mon propos en fait. On va passer aux questions. Ouais, j'ai décidé de finir sur cette espèce de liste.